Là, je peux peut-être raconter la petite histoire des bourgoses. Hein. Un bourgose, c'est le nom en bruxellaire d'un maraîcher. Le maraîcher du XVIIe siècle, XVIIIe siècle et encore XIXe siècle, jusqu'au milieu du XXe, c'étaient les maraîchers, comme je disais tout à l'heure, d'Anderlecht et de Haren, qui faisaient des légumes, qui produisaient des légumes et qui les ramenaient en charrette ou plus tard en voiture, jusqu'au centre-ville ou dans les différentes communes de Bruxelles. C'était vraiment les maraîchers qui alimentaient Bruxelles avant qu'on aplatisse le monde, hein, et que les légumes nous viennent des quatre coins du monde sans coût, même à coût moindre.
Heureuse coïncidence, parce que des bourgoisons modernes, il en reste encore à Bruxelles. Eux n'alimentent pas tout Bruxelles, mais les quelques habitants de la place Foucart à Schaerbeek, ainsi que ceux de la commune de Haren. Ils sont trois, Simon, Manu et Jaska, trois maraîchers ou bourgoisons, qui occupent un terrain à Haren de manière temporaire. Non loin de l'aéroport de Zaventem, il y a 2 ans, ils ont monté un projet de maraîchage sur sol vivant, MSV, qu'ils ont appelé le Kortilke. Kortilke, ça veut dire petit jardin en wallon. Ils n'auront occupé le terrain que 4 ans.
On y va ?
Yes.
1, 2, 3, hop !
Donc c'est ça les fameuses gouttières. Les fameuses gouttières, ouais.
Elles sont 8 mètres et demi de long. Elles sont en métal, donc elles sont super lourdes. Donc on sera pas bien. On sera bien à 4. À 4. Je vais vous expliquer.
Une.
On les prend tous en une fois.
Ouais, c'est ça.
La voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Simon. Simon, il enseigne l'horticulture dans une école professionnelle à Bruxelles.
Donc après, on les soulèvera. Et idéalement, enfin, moi j'ai toujours une ceinture, je vais toujours le poser ici. Comme ça, c'est pas le dos qui porte, c'est les hanches qui portent. Et comme ça, on évite de se casser le dos. Et surtout, quand vous levez, on lèvera tout. Il faut pas faire comme ça. Il faut plier les jambes. Il faut garder le dos bien droit et essayer de lever comme ça. Et c'est les jambes qui travaillent et pas le dos. Parce que là, si on fait comme ça, on se casse le dos. Okay. Ça va ?
Voilà.
On va la retourner.
Au moment où il parle, nous sommes sur le terrain du Kortilke avec ses bénévoles. Il et elle s'attellent au déplacement de 4 gouttières pour une serre.
Les gouttières de la serre qui sont là.
Mm-hmm.
Les gouttières qui récoltent tout de serre.
Okay.
On avait acheté des gouttières aussi pour la serre d'à côté qui n'en a pas. Et ça fait 1 an qu'ils doivent nous livrer le matériel et nous l'ont enfin livré avant-hier.
Et qu'est-ce qui explique en fait ce délai ? Enfin, ça fait un an, c'est quand même long.
Ils sont foireux. Ils doivent nous livrer le matériel. Qu'ils étaient foireux. On a demandé à beaucoup de gens qui les connaissent bien. Ils disent qu'apparemment c'est connu chez eux de ne pas respecter les délais.
Un an, c'est quand même long.
Ouais, c'est super long, quoi. On les a.
Vous avez fait comment entre temps ?
On s'en est passé. Parce qu'en fait, il faut démonter la serre pour monter les gouttières, donc on le fera quand on changera le terrain. On démontera tout et on remontera le truc. Mais on n'en a pas besoin pour l'instant, mais il fallait les avoir parce que pour être sûr, voilà, que ça, maintenant c'est livré, on est tranquille, on peut passer à autre chose. Voilà.
Ok, c'est vous qui le dites.
Ils installeront donc les gouttières sur le nouveau terrain qu'ils espèrent acquérir dans 2 ans. Elles serviront à récolter l'eau de pluie qui sera ensuite réutilisée pour arroser et irriguer les cultures. Entre-temps, au Kortilke, le travail continue avec beaucoup de rudesse. Ce qui m'a intéressé avec le projet du Kortilke et son occupation temporaire, c'est que Simon et Manu savaient d'emblée qu'ils ne pourraient pas rester à vie sur ce terrain. Il faudra laisser place à la bétonisation pour des logements sociaux. Alors ça m'a intrigué. Pourquoi s'être lancé dans un projet de cette ampleur ? Et surtout, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça signifie de s'impliquer dans un terrain de maraîchage qui va disparaître à jamais ?
Donc Simon travaille ici depuis 4-5 ans, je pense, avant que je le rencontre. Il travaille là-bas. Ils expérimentaient différentes techniques de culture. Et puis Simon, je pense qu'il voulait devenir un peu plus pro, un peu plus... ça marchait plus trop. Donc il a commencé à cultiver là sur une petite parcelle. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Et moi, ça faisait des années que j'avais une espèce de rêve comme ça. Je voulais faire des paniers, produire plein de trucs. Et je me dis, ça va être vachement cool. Donc on s'est rencontrés à une visite de terrain organisée par, que je dise pas de conneries, le début d'Haricot, à l'espace test en Anderlecht, là. Moi, j'étais, je recherchais des projets, je recherchais des opportunités, à rencontrer du monde. J'étais allé un peu pour voir. Et là, je vois un paye, Simon, si tu m'entends. Puis voilà, ça a été immédiat. 10 secondes.
Ok, et donc, et de là est né le Courtilica.
Et de là, ben, on s'est réunis sur le terrain, on a commencé à parler, on a imaginé un peu le futur ensemble. Mais il faut se dire qu'ici, là, c'était une immense prairie, en fait. Donc nous, quand on travaillait sur la première parcelle, on regardait le fond du champ, là-bas, ça nous paraissait à des kilomètres. Aujourd'hui, c'est la porte à côté. Mais donc, on s'est rencontrés, ça a bien fonctionné. Enfin, j'ai dit, Simon, c'est sûr, je vais travailler avec. Et puis, puis voilà, après, étape par étape.
Ces voix qui comptent sous la pub battante sont celles de Jaska et Caroline. Jaska, c'est le troisième associé qui a rejoint le Courtilica. C'est Manu qui l'a enrôlé dans le projet. En gros, durant la deuxième année du Courtilica, Simon a eu un accident. Il a dû être opéré et s'est retrouvé en incapacité de travail pendant 4 mois. Et comme la vie fait bien les choses, Manu et Jaska sont collègues. Ils travaillent dans une ferme non loin du Courtilica, le contact passe bien. Ils partagent la même passion pour le maraîchage, alors Manu n'a pas hésité, il lui a proposé de les rejoindre dans l'aventure. Caroline, elle est stagiaire pendant un an dans le cadre d'une formation. On était un vendredi matin de décembre, abrités sous une serre. Jaska et Caroline lavent et nettoient les légumes récoltés le matin même pour les paniers qu'ils iront vendre à Place Raymond Foucard, à Skerbeek. Une observation que j'ai faite, c'est qu'au Courtilica, il y a constamment du travail à faire, et ça par tous les temps. Il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, personne ne chôme, et encore moins quand on fait du maraîchage sur sol vivant. Et en parlant de maraîchage sur sol vivant, je vais laisser la parole à Simon qui explique mieux que personne ce que c'est, ses avantages et ses inconvénients. Parce qu'avant de les rencontrer, j'avais aucune idée de ce que c'était, à quoi ça servait. En fait, pour tout dire, je ne connaissais pas grand-chose au monde des maraîchers et des méthodes qu'ils et elles mettent en place pour espérer des conditions cultivables et optimales.
Donc, on est ici au fin fond du terrain, où on a mis une bâche... ça fait plus d'un an maintenant qu'elle est là. Et parce que quand on commence en fait en maraîchage sur sol vivant, donc nous on fait du maraîchage sur sol vivant vraiment pur. C'est un peu, comment dire, on est un peu des sols vivants extrêmes, mais moi j'aime bien. Quand on comprend ce qu'on fait, on ne ferait pas d'autres méthodes. Donc l'avantage c'est qu'il y a la vie du sol qui se développe à fond, les vers de terre qui travaillent, et donc on ne doit plus jamais travailler le sol. Donc ça, c'est déjà un gain de temps important. Et l'autre gain de temps, c'est qu'on ne doit pas désherber. En maraîchage bio conventionnel, le désherbage représente plus de la moitié du temps de travail en été. Et ici, on ne désherbe pas du tout. Donc ça nous permet aussi de gagner du temps énormément.
Et vous n'avez pas besoin de désherber parce que justement avec tout le travail que vous faites...
Parce que le paillage empêche les adventices de se développer. Parce qu'une adventice, donc une mauvaise herbe, elle se développe parce qu'il y a la graine germe. Dès qu'il y a du soleil qui arrive sur le sol se réchauffe et avec l'humidité, la graine arrive à germer. Mais quand la graine germe, eh bien, elle est bloquée par le paillage et donc elle ne sait pas le traverser. Cette année, on a remarqué certaines cultures qui commencent vraiment à profiter du système. On a des navets qui sont énormes, super goûtus, super sucrés. Donc c'est super, quoi. On commence à avoir un sol super fertile qui nous permet de continuer dans le même sens, quoi.
Vous saisissez l'implication que ça demande ce maraîchage sur sol vivant ? En plus, ils n'utilisent pas de machines ou que de temps à autre. Et quand ils ont lancé le Courtilica, ils n'étaient que deux, Simon et Manu. Deux amis qui ont puisé dans leurs propres économies pour financer le projet. On parle de quelques 2-3 000 euros chacun, de leur propre poche. Et rappelez-vous, je vous ai dit un peu plus tôt que Jaska a rejoint le duo plus tard, à la suite de l'accident de Simon et la soudaine surcharge de travail qui retombait sur Manu.
C'est quand même énormément de travail, puisqu'en plus, vous n'utilisez pas énormément d'outils ou de machinerie sur le terrain. Pas de machine du tout, même.
Une tondeuse depuis l'année dernière, mais c'est pour les chemins.
Vous avez aussi acheté une désherbeuse, non? Je sais pas si...
Débroussailleuse. Ça, c'est pour des travaux en bordure. Enfin, c'est pas pour les parcelles.
Est-ce qu'il y a une raison de ne pas utiliser de machinerie du tout?
Ça fait partie du concept, en fait. Il n'y a pas besoin. On pense qu'il y a pas... Enfin, pour le type de projet qu'on est, c'est pas utile. On utilise en fait un tout petit peu des machines au moment où on prépare les parcelles. On apporte donc environ 15-20 cm de broyat partout. Et on incorpore avec un motoculteur sur les 5-10 premiers centimètres du sol. On bâche pour accélérer la décomposition du broyat. Et c'est le seul moment où on utilise une machine. Mais c'est même pas notre machine, on l'emprunte et puis on la rapporte à l'école et c'est terminé.
Et donc, est-ce que tu peux m'expliquer comment c'était de gérer en fait les parcelles seules en année 2 quand Simon, justement, il n'était pas apte à le faire? Vous aviez en plus étendu le terrain, donc c'était comment de tout gérer?
On avait fait 3,5 fois en surface cultivée. Simon n'était plus là, on n'avait pas trop de bénévoles. Heureusement, à l'époque, j'avais une copine qui m'a filé énormément de coups de main. Angèle, si tu m'entends, un grand merci. Je pense que si tu n'avais pas été là, on n'aurait pas réussi. Donc on était principalement tous les deux. Et on a foncé. C'était la période confinement, donc on avait pas mal de temps. C'était agréable, en fait. Il faisait beau, il faisait hyper beau cette année-là. Confinement, personne dans les rues, personne dehors. C'était quand même pas mal de liberté, donc ça allait. Mais c'était quand même énormément de travail, donc c'était... Pour les maraîchers qui suivent le podcast, tendinite, tout ça, blessures, le dos, que du bonheur.
Puis, en année 3, on leur propose de rentrer dans le programme du service citoyen qui leur permettra d'obtenir des bénévoles sur les 5 parcelles qu'ils possèdent. Aujourd'hui, ce sont 3 bénévoles qui les aident de l'ordre de 28 heures par semaine. Il y a Julia, Renaud et Elisabeth.
Je vais juste regarder la mesure que je fais.
Il veut qu'on
laisse
cacher le tuyau d'irrigation.
Je crois qu'il serpente un peu.
Quoi?
Je crois qu'il serpente un peu ou quoi?
Parce que là, c'est. Il passe justement aux 40 cm qu'il voulait, quoi. Ouais, tu
ah
vois.
Ah oui.
Donc, je vais bien faire le. Je sais pas.
Bah ouais, à mon avis, ça va pas être peut-être super droit comme ligne,
ouais,
mais.
Bah ouais, non.
Il pourrait y avoir 20 cm entre les deux, comme ça, je sais.
Ouais, tu fais avec tes mains, tu fais comme ça, je pense.
Ouais, c'est ça.
Deux fois comme ça.
C'est un milieu qui t'est familier à toi, la permaculture?
Absolument pas. J'ai fait ça par le biais de mes études. J'ai commencé en gestion hôtelière et je me suis intéressée à tout ce qui était art culinaire, etc. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas... lancer un projet en étant complètement en autonomie et servir à des gens des aliments bio et sains, en fait. Parce qu'au supermarché, tout ce qu'on mange, moi je peux pas, donc voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici.
Julia, 25 ans, étudiante.
J'en apprends tous les jours, c'est très rude. Il faut pas se mentir, genre le maraîchage, c'est très très difficile, surtout que moi je suis une fille toute frêle, etc. Enfin... Je suis pour l'égalité des genres, etc. Mais voilà, je n'ai pas beaucoup de muscles. Et du coup, voilà. Mais c'est rude, mais c'est très, très, très passionnant, quoi.
Et est-ce que c'est... Justement, tu parles du fait que c'est quand même assez rude. Est-ce que c'est quelque chose dont tu t'y attendais, en fait? Parce que c'est très physique.
Oui. Oui, c'est très physique, mais...
Tu t'attendais à autant de... Que ce soit autant physique?
Oui. Ouais, je m'y attendais. Oui, je m'y attendais et j'étais préparée. Mais j'ai toujours été dans des métiers d'hommes, considérés pour les hommes. Et je m'en suis toujours foutu tout.
Ah oui, merci.
Donc voilà, on est capable de faire la même chose.
Ah oui.
Si t'arrives pas à prendre, tu peux piocher dans la citerne près de la pépinière, tu la prends.
Ok.
L'autre voix qu'on entend, c'est celle d'Elisabeth. Elle n'est pas au service citoyen, mais aime bien venir prêter main forte quand elle le veut.
Désolée.
La binette. La binette dans les sillons, c'est un truc que j'ai envie de... Enfin, c'est quelque chose que j'ai envie de reproduire, surtout un mode de vie que j'ai envie de reproduire. Bon, après, mes grands-parents, c'est au Portugal hein, qu'ils ont vécu et c'est là-bas qu'ils ont, qu'ils ont eu, qu'ils ont acheté tout leur terrain et qu'ils ont prospéré dans l'agriculture et dans l'élevage aussi. Donc là, la partie élevage, ça m'intéresse moins. Bon, c'est vraiment la culture de la terre qui m'intéresse, quoi. Donc, idéalement, ça serait pour pouvoir nourrir une communauté. Et peut-être voir à plus large échelle, si ça se passe bien. Mais on va déjà commencer pour nous et puis une communauté, et puis on verra.
Donc il y a aussi cette envie de créer aussi une sorte de projet similaire au Courtilac.
Ouais, j'aime bien ce système de panier. Ce système aussi de forfait qu'on retrouve dans différents endroits à Bruxelles où les gens payent à l'année directement au début de saison. Comme ça, la structure c'est acheter tout ce qui est graines, tout ce qui est matos, quoi. Et puis voilà, ils sont achalandés avec leur panier en fonction de la récolte. J'aime bien ce système-là où c'est respectueux du producteur aussi, quoi. C'est pas, t'as pas ce truc de la garantie du même produit toute l'année, saison pas saison. Là, on est, j'aime bien ce système où on respecte les produits de saison, les produits de chez nous. Voilà.
Ouais, on le circuit reste court. On reste vraiment dans le local.
Ouais, le circuit court, c'est cool, quoi.
Mmh. Ok. Ça marche. Ça fait combien de temps que tu es en train d'arroser là?
Ouf. Selon le minuteur que j'ai mis.
Ah, t'as mis un minuteur
carrément? Ouais, voilà. Bah, il me reste 20 minutes d'arrosage là à faire.
Wow.
Voilà. Ouais, il faut
masse d'eau, il y aura peut-être au moins 1 mètre cube. Il y a une raison pour laquelle tu secoues comme ça
Oh non.
Non, juste c'est juste...
avoir un peu partout, voilà. De toute façon, on va arroser deux fois, donc on aura bien...
Deux fois dans la journée?
Non, une autre fois, peut-être la semaine prochaine.
Oui. C'est ça, la semaine prochaine ou demain?
Dans 3 jours, quand on retournera le fumier.
Ok, voilà.
Donc, on peut mettre la même quantité d'eau?
Arroser comme ça... tout le truc et aller de gauche à droite, et puis tout arroser et vraiment inonder. Et ça fait combien de temps que tu as commencé?
Là, ça fait 20 minutes, enfin non, 10 minutes, donc il reste 20 minutes.
Il reste 20 minutes.
Voilà.
20 minutes pour arroser tout ça. Et dans 20 minutes, tu m'appelles et on regarde comment ça se commençait et on arrose. Ça fait combien de temps que tu travailles du coup ici, Renaud?
Ici, ça fait 2 bons mois. Après, j'ai pas une grande expérience du maraîchage non plus, mais on apprend vite, hein. C'est assez instinctif au final. Voilà, donc ouais, c'est. Allez, dans le cadre d'un stage du service citoyen. Et du coup, si tout se passe bien, bah, je suis ici pour 6 mois. Voilà, et ça me plairait vraiment bien d'être ici pour 6 mois. Parce que bah, justement, j'ai envie de développer un projet de maraîchage aussi par la suite, quoi, de mon côté. Et voilà. J'accumule de l'expérience, on va dire, en faisant ce stage ici.
Trois jeunes qui ont tous les trois une ambition de monter un projet similaire au Courtilac dans le but d'assurer leur propre souveraineté alimentaire. Mais que pensent-ils et que pensent-elles de la prochaine disparition du Courtilac?
Ça me brise le cœur.
Ouais, non, franchement, moi, quand Simon m'a dit ça, ça me brise le cœur parce que je trouve que c'est tellement important. Après, je pense qu'ils vont construire des logements ici. Oui, mais... Après, je sais qu'ils vont recommencer leur projet autre part, mais ça demande tellement de travail, quoi. Enfin, moi, j'ai envie de faire la même chose et je me dis pas qu'on pourrait casser tout ce que j'ai construit, quoi. C'est tellement triste, quoi.
T'aurais autant, toi, de hargne à continuer?
Bah, les fruits et légumes, ils seront quand même là, hein, pendant 2 ans. Donc ça sert. On va pas pleurer et se rouler par terre. Non, voilà. On va produire, ils vont produire pendant 2 ans encore. Et puis après, ils recommenceront quelque part. Mais je trouve ça triste que la société trouve que ça soit important, quoi, des projets comme ça. Donc après, heureusement qu'ils ont du courage et que ça les passionne, quoi, de refaire ça.
J'étais un peu étonnée au début parce que c'est au final beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie, de thunes aussi. Mais voilà, ils continuent à le faire jusqu'au bout et ça, c'est bien aussi de voir autant de motivation pour les bénéficiaires au final. Donc voilà. Bah, justement, je lisais un article il n'y a pas longtemps sur la... Comment ça s'appelle ? Le champ des Cailles à Watermael-Boitsfort. Et là, pareil, la commune, en fait, il y a un peu un débat entre les écolos et le PS. Est-ce que on garde le terrain comme il est et on continue à faire de l'agriculture et à élargir même les parcelles pour pouvoir nourrir plus de gens dans la commune? Ou est-ce que on ravage tout et on fait des logements sociaux, quoi? Enfin, moi, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est dommage de juste se dire on va encore faire des logements et on va encore perdre des zones où on peut donner une certaine autonomie à la commune au niveau alimentaire, quoi. On devrait faire grandir ça dans les villes plutôt que d'aller s'achalander dans des grandes super des rouleaux compresseurs de Carrefour et de je sais pas tout quoi, grande surface là, où on exploite les gens et on exploite les producteurs. C'est des systèmes comme ici qu'il faut faire perdurer, pas l'inverse.
Alors, je trouve ça... Allez, dommage que ça soit voué à disparaître, déjà. Après, comme on le constate assez vite dans le maraîchage, tout est assez éphémère, quoi. Tout va très vite. Une fois que les récoltes sont faites, le sol... est utilisé pour autre chose, tout bouge en fait. Et donc quand on a conscience de ça, je pense que c'est plus facile d'envisager qu'un projet comme le Courtier Le Cup peut s'exporter très facilement ailleurs sur une autre terre, quoi. Je suis partagé parce qu'en fait je me dis que c'est une bonne chose, c'est un beau terrain ici, c'est vraiment proche de la ville. Et en fait ça met un peu dans... Enfin j'ai l'impression dans l'incertitude. Quant à... un avenir de la SBL, quoi. Donc voilà, je pense, je sais que ça va durer, hein, que ça va être, ils vont trouver un autre terrain, c'est ce qu'ils envisagent de faire. Mais voilà, il y a quand même pas mal d'investissements ici qui a été fait. Il y a encore d'autres choses qui sont utilisées, des nouvelles. Ça s'agrandit en fait d'année en année pour les besoins justement de la SBL. Ça va pas être aussi facile de faire tout ça. Dès la première année, d'avoir le même rendement sur un autre terrain, quoi.
Ok. Ce qui est intéressant dans les 3 interventions qu'on vient d'entendre, c'est le rapport que les 3 bénévoles ont déjà avec le Courtier Le Cup. En plus d'être des passionnés du travail de la terre, ils ont créé un lien super fort avec tout l'investissement qu'ils et elles apportent. 28 heures et 4 jours par semaine, c'est pas rien. Ils et elles savent tout ce que faire pousser des fruits et légumes représente. Il y a donc, en plus de la tristesse de savoir le terrain condamné à disparaître, une sorte d'incompréhension dans le peu de considération donnée pour la souveraineté alimentaire. Et pour Caroline, il est primordial de revoir certaines priorités.
Ici, c'est pas comme être dans un squat, parce qu'un squat, tu rentres, t'occupes. Ici, pour pouvoir cultiver, ils ont dû faire un travail de dingue, de retravailler le sol, enfin non, justement, de revitaliser le sol. Et donc... Ouais, c'est tellement d'investissements et juste foutre du béton ici, c'est ridicule en fait. C'est totalement ridicule comparé à 45 000 logements vides. Et par contre, des espaces comme ceux-ci, avec des personnes comme celle-là qui s'investissent autant pour l'avenir, il n'y en a que trop peu. Il faut valoriser ces espaces.
C'est un mangeur chez nous? Il a son pain chaque semaine. Et une fois, il est venu.
Ça, c'est
qu'il a un coup de main.
Mais on a dit, hein.
Dieu le préserve. Toi,
tu veux aller faire un vrai projet.
Caro, c'était ta stagiaire de l'année.
Là, il s'agit vraiment de placer les cultures sous les terrains.
La cacophonie qu'on vient d'entendre, c'est un bref extrait de la réunion des associés que Simon, Manu et Jaska organisent chaque année pour discuter des plans culture et de l'avenir du Courtiléka. Et si l'ambiance est à la joie, notre trio n'oublie pas qu'il faut commencer à envisager le futur terrain. Mais c'est comment la préparation en fait ?
On a une liste de contacts à contacter et on va voir un peu ce qui se passe, comment ça va.
Et vous avez eu pour... la liste, elle concerne aussi des terrains qui sont dans la zone bruxelloise, comme vous vouliez.
Oui, Neder-Overeembeek principalement, Vilvoorde, Zaventem. Neder-Overeembeek serait vraiment bien, parce que c'est tout près de chez nous, quoi. C'est 20 minutes maximum à vélo, donc ça va, quoi.
Et Terrenvouille est toujours...
Oui, toujours. Il suffit qu'on trouve un terrain, et là, ils arrivent à la charge en modérateur avec le contrat, etc., pour négocier avec les propriétaires. Donc c'est...
Mais la liste de potentiels terrains que vous avez eu, c'était en vue que vous l'a procuré ou c'est vous qui avez cherché, trouvé ?
Un peu les deux.
Et du coup, hier, vous vous êtes réunis avec Terre en vue pour en discuter ?
Non, on s'est réunis avec juste entre Jaska, Manu et moi pour se mettre un peu le plan d'attaque en place. Il faut vraiment qu'on se bouge maintenant parce que 2 ans, ça passera vite. Et je pense que ça peut vraiment aller très... Ça peut aller très très lentement, quoi. Avoir le contact, puis négocier le prix si on veut acheter, etc. Avec les communes et tout ça, c'est peut-être un peu compliqué. Donc ça prendra peut-être plus de temps que prévu. Donc.
Parce que là, ce sera avec les communes qu'il faudra négocier, pas avec des agriculteurs.
Ça dépend, c'est les agriculteurs ou quoi. Mais si l'agriculteur accepte et après, il faudra peut-être qu'on fasse des demandes de permis pour mettre les serres, mettre une cabane ou quoi, un abri. Et tout ça va prendre du temps. Donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance pour arriver en temps et en heure sur le nouveau terrain.
Il y a Terre en Vue qui nous accompagne dans cette démarche. On ne pense pas que ça va être très facile. Il va probablement falloir sortir un peu plus de Bruxelles. Mais on y arrivera bien.
Donc c'est Terre en Vue qui les suit dans leur recherche de nouveaux terrains. Je suis donc allé voir Terre en Vue, plus particulièrement Antoine Girard, qui accompagne le dossier du Courtiléka depuis le début des recherches.
Terre en Vue, c'est un mouvement d'agriculteurs et de citoyens. Et notre mission dans Terre en Vue, c'est de faciliter l'accès à la terre. Donc de donner l'accès à la terre, mais aussi de le sécuriser à long terme. Donc on est vraiment dans le sujet ici. Typiquement, Terre en Vue est une coopérative qui peut acheter des terrains agricoles pour les louer à des agriculteurs sur le long terme. Donc si Manu, Simon et Jaska trouvent un terrain et qu'ils n'ont pas les sous pour l'acheter, Terre en Vue pourrait l'acheter et leur louer. On est contre cette spéculation autour des terres agricoles. On veut simplement leur donner cette vocation nourricière et professionnelle en les mettant à la disposition d'agriculteurs comme le Courtiléka.
Antoine, il connaît Simon, Manu et Jaska personnellement. C'est même lui qui les a introduits à Terre en Vue quand il a su qu'ils étaient sous un contrat précaire, ce qui n'est pas idéal quand on veut pérenniser son projet. En Belgique, il existe différents types de contrats pour protéger agriculteurs et maraîchers. Malheureusement, ces contrats ne courent pas les rues.
Les notaires et les juristes sont très créatifs, hein, et la loi belge est très créative en termes de contrats. Mais cela dit, il existe un contrat qui est prévu entre les propriétaires et les agriculteurs, c'est le bail à ferme. Et ce bail à ferme, il représente toute une série d'acquis sociaux pour les agriculteurs. Et donc, à travers le temps, il s'est renforcé, de sorte qu'aujourd'hui, il protège très fort les agriculteurs. Et du coup, le corollaire de cette sécurité pour l'agriculteur, c'est qu'en fait, de moins en moins de propriétaires rentrent dans le bail à ferme, contractent des bails à ferme. Et donc, ils se tournent vers toute une série d'autres alternatives, comme le prêt à usage, qui est le Comoda, c'est un prêt, en fait. Je te prête mon terrain gratuitement. Mais ce contrat est quand même précaire parce que le Code civil prévoit que le propriétaire peut récupérer l'usage de son terrain s'il en a un besoin pressant. Il doit quand même le justifier, hein, mais, mais il y a quand même quelque chose de précaire. Alors au-delà de ça, on a vraiment le contrat précaire de base, qui n'est même pas un prêt, c'est juste un contrat précaire qui permet vraiment au propriétaire alors de rompre le contrat à tout moment.
Pour Simon et Manu, la question de savoir si se lancer dans ce projet de maraîchage sur sol vivant, malgré la contrainte du temps, ne s'est pas vraiment posée. Ils avaient un terrain, un projet, ils n'allaient pas passer à côté d'une telle opportunité.
Mais moi, ce terrain-là, j'avais commencé au potager collectif du terrain qui est là, un peu...
Juste derrière nous.
Oui, sur le côté. Déjà, à ce moment-là, on savait qu'on n'allait pas pouvoir rester à vie sur le terrain. Et donc, la société de logement a racheté le terrain et nous a prévenus, nous a dit, voilà, ben, ce serait bien que vous partiez prochainement parce qu'on doit construire les logements sociaux. Mais donc, finalement, ce terrain-ci, je l'ai toujours considéré comme un espace test. Un peu comme les espaces tests à Anderlecht, où les maraîchers ont accès à du matériel, à des terres pendant 2 ans. Et s'ils aiment ce qu'ils font, ben là, ils cherchent un autre terrain après. Et donc, ce terrain-ci, c'est un espace test. Donc, on fait plein de tests. On essaie des choses. Et maintenant, on a 2 ans pour trouver un autre terrain. On sait déjà ce qu'on fera et ce qu'on ne fera pas, surtout sur l'autre terrain, pour être efficace et augmenter la production sur le même temps de travail, quoi.
Donc on s'est dit, bon, on a 4 ans, parfait. Comme ça, on va faire nos erreurs pendant 4 ans ici. Et à la réinstallation, eh ben, y a plein de choses qu'on fera différemment, qu'on fera mieux ou qu'on fera autrement. Et c'est très bien.
Donc que ce soit Simon ou toi, vous aviez déjà cette idée que ce serait plus un terrain test.
On savait, on a choisi d'y aller quand même.
Tu te sens comment à l'idée de te dire que dans environ 2 ans, ici, le Courtilica à Aaron, c'est terminé.
Mais c'est triste parce que c'est un magnifique terrain. Vraiment. Mais se réinstaller, c'est aussi des chouettes perspectives. Moi, j'aime bien la période d'installation.
Qu'est-ce qui te plaît dans la période d'installation ?
La conception, le lancement. En fait, je préfère le lancement du projet que la routine ensuite. Donc, quand je m'imagine dans 2 ans sur un nouveau terrain, je me réjouis assez en fait de tout ce qu'on fera pour l'installer.
Mais au-delà de perdre un terrain, c'est toute une cohésion sociale qui risque de partir. Parce que l'idée des paniers, en plus d'être l'apport financier du projet, il est surtout le fruit d'une initiative sociale qui a été amenée par le responsable de quartier, Luc Mikkels.
Il y a des choses qui se sont installées comme ça, naturellement et au cours du temps. Hein. En fait, la bouffe, ça réunit tout le monde. Hein. Et même si on est dans un quartier d'apparence assez convivial et tout, ben ça ne veut pas dire que tout le monde se connaît. Et le fait qu'il y ait une fois par semaine cette distribution de paniers, beaucoup de gens qui sont abonnés disent « Mais c'est quoi ce nouveau légume ?» Donc on découvre des nouveaux légumes, on découvre des fruits, et il y a toute une dynamique d'échange entre nous, et c'est suivi par les groupes WhatsApp et tout. Tiens, aujourd'hui, cette semaine-ci, qu'est-ce que je vais faire avec tel type de courge? Et il y a des échanges de recettes entre les personnes et tout, et c'est vraiment devenu un moteur de convivialité entre les abonnés, quoi.
Je lève mon verre au ver de terre,
oui,
au
oui.
Paillage et au maraîchage.
Il a préparé son truc.
Mais j'aimerais bien reprendre la chanson Voyage, voyage. Vas-y. Et changer en paillage, paillage. Mais
je suis pas sûr que tu vas faire un carton, mais on peut essayer.
Plus loin que le mont Labour. Paillage, paillage. Il y a moyen de faire quelque chose.
On tient quelque chose.
Nous aussi, on va se quitter avec la merveilleuse chanson de Désirless. Parce qu'après tout, le Courtilica, c'est plus qu'une aventure que Simon, Manu et Jaska ont décidé de mener. C'est leur espace inouï d'amour, leur havre de paix, leur bout de terre qu'ils espèrent transposer autre part dans Bruxelles d'ici 2 ans. Allez, je vous laisse avec Voyage Voyage de Désirless. Avant de vous quitter, je voudrais remercier toute l'équipe du Courtilica, Simon, Jaska, Manu, Caroline, Renaud, Julia et Elisabeth, que j'ai suivi des mois durant. Je voudrais également remercier Hélène Maquet, sans qui je n'aurais jamais découvert le courtier Le Quai. Je remercie aussi Antoine Gérard et Luc Mikils pour leur temps et leur intervention. Ainsi qu'un énorme merci à Leslie Doumerc et Lise Ménalc pour le suivi de ce projet.